7h-9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et à 7h30, le journal est présenté par Charles Bonner.
Avec à la une ce matin une visite présidentielle à Guyane, insécurité, économie, écologie, mais aussi mémoire au menu de la visite du président. La France rehausse son niveau d'alerte après l'attentat de Moscou. En Russie, les opposants s'attendent à une vague de répression. Et puis le déni de ces propriétaires qui veulent une maison au bord de la mer malgré l'érosion des côtes.
Après le journal, l'écho du monde. Poutine a-t-il profité de l'attentat de Moscou pour sortir un nouveau plan d'attaque contre l'Ukraine? Explication de Christian Macarian à suivre, suivi du journal imprévisible consacré aux relations entre les politiques et les voyants. Enfin, David Barou nous explique pourquoi Ariane reste toujours stratégique pour la France et l'Europe. Il demande une commission pour enquêter sur les anciens pensionnats de Guyane.
La demande provient d'un collectif d'universitaires, d'autochtones et d'acteurs de la justice transitionnelle. Ils veulent profiter de la venue d'Emmanuel Macron à partir de ce matin dans le département pour que des enquêtes soient menées sur les homes indiens. Ce sont 8 pensionnats catholiques qui ont scolarisé 2000 enfants autochtones pendant des décennies. Fabien Albert, le dernier, a fermé l'an dernier.
Assimilation forcée, messe, prière et marseillaise obligatoire. Enfants indigènes contraints d'abandonner leur famille dès 4-5 ans pour être éduqués par des missionnaires. L'enquête menée en Guyane par l'IFJD est fournie. Magali Bess est la directrice de l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, Louis Joinet.
Les enfants étaient coupés de leur famille, ils ne rentraient chez eux qu'une fois par an et avec en plus une interdiction de parler leur langue.
Si bien que certains anciens pensionnaires ne comprennent même plus leur langue maternelle aujourd'hui, hommes et femmes orphelins de leur culture.
La transmission des savoirs, des habitudes, des rites, c'est perdu pour un grand nombre d'enfants durant leur scolarisation au sein des homes. La possession d'objets sacrés, le port des cheveux longs, tout ce qui pouvait en fait être des signes culturels pour ces enfants était également interdit.
Violence culturelle mais aussi physique et sexuelle selon plusieurs témoignages. Les victimes demandent à la France de reconnaître son rôle.
L'État a une responsabilité au sein de ces pensionnats puisqu'il a soutenu et financé les homes indiens qui sont des établissements catholiques mais sachant que la loi 1905 ne s'appliquait pas en Guyane.
D'où la nécessité d'une commission vérité et réconciliation pour libérer la parole et rendre justice et réparation à toutes les victimes.
Et demain, Emmanuel Macron se rend à Kourou, dont il ambitionne de faire un port du spatial pour l'Europe. Il ira ensuite au Brésil, qui partage 730 km de frontières communes avec la France au Guyana. En Guyane, une rencontre avec son homologue Lula est prévue sur la question de l'orpaillage illégal.
La France rehausse le niveau d'alerte attentat.
Un retour au niveau urgence attentat, c'est le niveau le plus élevé. Décision prise hier en Conseil de sécurité, annoncé après l'attentat de Moscou. Au moins 137 morts dans une salle de concert. 4 personnes placées en détention provisoire, accusées d'être les assaillants. Sur place, les enquêteurs ont dit avoir trouvé 500 balles, 28 chargeurs. L'État islamique a revendiqué cet attentat. Mais Vladimir Poutine et le pouvoir russe en général continuent de cibler l'Ukraine. Les opposants s'attendent donc désormais à être visés, à être mobilisés dans l'armée. Olga Prokopieva est porte-parole de l'association Russie Libérée.
Ce qui est assez courant, c'est que ceux qui se sont par le passé exprimés contre la guerre, ceux qui sont déjà fichés par le régime, ils leur distribuent justement les ordres de mobilisation en priorité. Et nous craignons pour eux, et il y a des ONG qui œuvrent pour aider ces hommes à connaître leurs droits, faire valoir leurs droits, à se soustraire à la mobilisation et aussi fuir la Russie. Donc c'est surtout sur ça que nous craignons une accélération, une accentuation des raids, comme il y en a déjà eu par le passé dans les rues, dans le métro, sur les hommes.
Un propos recueilli par Héloïse Weiss. La mise en garde d'Emmanuel Macron envers Israël, un transfert forcé de population constituerait un crime de guerre, dit le président français à Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. La France qui maintient également son opposition aux annonces sur la colonisation de 800 hectares en Cisjordanie.
Radio Classique, il est 7h34. Au Sénégal, l'opposition en bonne forme.
Les résultats ne sont pas encore connus, ils sont dévoilés au compte-goutte. Par bureau de vote, le candidat anti-système à cette présidentielle, candidat de l'opposition, Diomaye Faye, semble être en tête, déjà félicité par 7 candidats du premier tour. Un candidat adepte d'un panafricanisme de gauche, une tendance politique de plus en plus forte au Sénégal, selon Sidi Sissoko, il est chercheur au CNRS.
C'est, je pense, un ras-le-bol, en fait, hein, de la part de la population sénégalaise qui s'exprimait depuis plusieurs mois. Il y a eu différentes manifestations. En mars 2021, d'abord, hein, avec une répression assez brutale, des tirs à balles réelles contre les manifestants. Et puis, encore une autre série de manifestations en juin 2023, réprimées tout aussi violemment. Et puis, tout ce qui s'est passé avant l'élection, à savoir l'annulation de la date où devait se tenir le scrutin, hein, le 25 février, et toute une période de flottement et d'incertitude qui a sans doute complètement miné l'image et le bilan que pouvait avoir le président sortant.
Le spécialiste du Sénégal, Sidi Sissoko, avec Chloé Sénard, le corps du dauphin de l'actuel président Macky Sall, Amadou Ba, estime qu'un deuxième tour sera nécessaire. La date n'est pas encore fixée.
Les fédérations d'agriculteurs, une nouvelle fois reçues par Gabriel Attal.
Une nouvelle rencontre à la veille du congrès de la principale fédération d'agriculteurs, la FNSEA. Ce sera à Dunkerque qu'un millier de participants sont attendus, dont le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, jeudi pour la fermeture. C'est l'un des dossiers qui oppose certains agriculteurs avec des organisations écologistes. Le cas des bassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Une manifestation avait lieu il y a un an. Une manifestation qui s'est terminée en affrontement avec les forces de l'ordre. Jusqu'à ce soir, des actions sont donc menées sur place, mais dans le calme, selon Sylvain Griffo, le maire de Mel, à côté de Sainte-Soline.
Lui, c'est plutôt une commémoration un an après Sainte-Soline pour que les gens se souviennent. L'année dernière, on avait affaire à 15 à 20 000 personnes à Sainte-Soline et à 10 000 personnes à Mel. Là, on a eu 300-400 personnes pour cet anniversaire. Par contre, ce dont je suis certain, c'est qu'il y aura d'autres mobilisations. La bassine de Sainte-Soline est la plus grande qui sera construite. Et pour moi, c'est une projection dans l'avenir qui dit on va aller vers des fermes-usines. C'est un projet qui emmène encore un peu plus dans le mur l'agriculture. Il faut adapter l'agriculture à la rareté de l'eau. Aujourd'hui, on propose un modèle agricole qui s'appuie sur une irrigation qui va encourager ces agriculteurs à ne pas modifier leur modèle. Mais moi, j'ai la conviction que l'ensemble du monde agricole, si on lui assure un revenu, est prêt à changer de modèle.
Le maire de Mel, dans les Deux-Sèvres, avec Julie Droin et le collectif à l'origine de la mobilisation, va porter plainte contre Gérald Darmanin, une plainte qui évoque des mensonges lors de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion du maintien de l'ordre.
Une partie du littoral est menacée par l'érosion.
C'est un phénomène qui va progresser avec la montée des eaux. Un rapport est publié cette semaine sur l'évolution du trait de côte qui va donc définir l'avenir de la construction sur les bords de mer. Mais dans les faits, on ressent comme un déni global. Construire pour avoir une vue sur la mer reste toujours un rêve, y compris dans les zones à risque, Zoé Pallier.
Des maisons construites en flanc de falaise ou à quelques mètres seulement de la digue. D'ici 2050, elles pourraient disparaître, indique Julia Jordan de la direction risque eau et mer du CEREMA.
5200 logements pourraient être concernés. Côté Méditerranée, les enjeux sont assez prégnants. La Seine-Maritime, la Corse, les Pyrénées-Atlantiques.
Et pourtant, cela n'effraie pas les acquéreurs.
On a une demande qui est très forte sur des produits le plus proche de l'eau.
Benjamin Mondou est agent immobilier sur la Côte d'Azur.
On leur dit clairement que voilà, il y a un risque dans quelques années, leur propriété puisse être touché par cette érosion. Il nous dit, écoutez Benjamin, on verra bien.
Même en Vendée, ravagée par la tempête Xynthia en 2010, le littoral attire toujours. Souvent, les acheteurs connaissent les risques, pointe Eugénie Cazot, géographe à l'université de Brest.
Ça va être d'abord un profil investisseur qui savent qu'en 7, 8 ans, en louant à tel prix tant de mois par an, ils auront rentabilisé leur acquisition. Deuxième type de profil, c'est des pré-retraités ou des retraités qui vont acheter un bien qui va peut-être disparaître, mais d'ici là, ils savent très bien qu'ils seront soit en maison de retraite, soit peut-être décédés. C'est un achat pour profiter.
Résultat, les prix continuent à augmenter dans certaines zones. À La Rochelle, par exemple, depuis le Covid, on avait une croissance à deux chiffres, indique un agent immobilier. Aujourd'hui, la hausse se stabilise, mais, poursuit-il, c'est à cause des taux d'intérêt, sûrement pas de l'érosion.
Les explications de Zoé Pallier.
Merci Charles, rendez-vous à 8h30 pour le rappel des titres. Et ce matin, je vous conseille deux chroniques. La première est à la une de l'opinion. Elle est signée Olivier Bacuse. Vladimir Poutine plus imprévisible que jamais. La deuxième chronique, c'est celle qui suit l'écho du monde avec Christian Macarian. L'attentat de Moscou offre-t-il un prétexte à Poutine pour écraser l'Ukraine ? Explication dans un instant. Radio Classique 7h30.